les jardinières.
Bonjour et soyez les bienvenus chez les jardinières. On se met en route pour parler jardinage durant une heure. À mes côtés, Raphaël, bonjour.
Bonjour Mylène, bonjour à tous et on espère que vous avez la forme en samedi matin pour répondre à vos questions. Bah oui, nous on a la forme et on espère aussi que Fabrice Rondet, créateur de son entreprise Fabrice Rondet SARL, paysagiste à Porrentruy, est en forme. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Vous posez vos questions au jardinage à Fabrice. Vous connaissez tous les systèmes, mais on vous les rappelle encore une fois. Vous composez dès maintenant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et puis si vous êtes timide et que vous avez encore la voix un petit peu endormie, eh ben bien sûr, vous avez l'option SMS à disposition. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939. Et pour terminer, le formulaire à remplir disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
C'est parti pour une heure de jardinage tout en restant au chaud.
7h, 8h, les jardinières.
Brouillard, givre, température qui baisse de plus en plus, un temps qui ne donne pas trop envie de sortir au jardin. Et pourtant, il y a de quoi faire. Dites-nous tout, Fabrice.
Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, on va mettre l'accent un petit peu sur le nettoyage autour de nos propriétés. Donc on va s'occuper peut-être des dernières tontes du gazon pour les préparer pour l'hiver ou la fauche des surfaces gazon fleuri, prairie fleurie qui seraient plus hautes. On va commencer les tailles, on va aborder aussi la période des plantations et puis on va finir aussi pour les petits entretiens dans les massifs de petits végétaux ou du potager pour tout mettre en place correctement pour l'hiver pour qu'après on puisse recommencer au printemps tranquillement.
On se réjouit déjà, Fabrice, de recommencer au printemps, déjà.
Ben, pour moi, pas oui, parce qu'on a quand même des saisons maintenant qui sont un peu tristounettes. Le soleil se lève très tard, il retombe très vite. Donc, c'est vrai qu'au printemps, avec les journées qui s'allongent, les journées qui se réchauffent, c'est quand même plus agréable.
En tout cas, merci beaucoup Fabrice. Il est temps pour vous de poser vos questions. Vous avez jusqu'à 8 heures pour le faire. Je rappelle les trois possibilités. Par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez le tout au 939 ou en remplissant le formulaire disponible sur nos sites web sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières avec vous jusqu'à 8h et nous recevons déjà des questions pour vous, Fabrice. On a reçu une question formulaire durant la semaine. On va parler feuilles mortes. Alors,
exactement, avec Sonia de Glovulier qui nous dit « Est-il bien de ramasser les feuilles de pommiers cognacées ou autres avant l'hiver en sachant que j'ai de la mousse sous les fruitiers ?» Merci pour votre émission. J'apprends de nouvelles astuces tous les samedis.
Alors oui, effectivement, donc déjà de débarrasser son gazon des feuilles qui pourraient être en tapis trop important pourrait l'empêcher à ce gazon de pourrir ou de dédevenir pour le printemps. Donc ça c'est déjà bien. Et puis après on peut utiliser tous ces feuilles pour justement le mettre dans un compost pour après le réutiliser pourquoi pas sous une haie une fois qu'il est composté ou dans son jardin potager pour ramener de la matière organique. Ou alors après on peut aussi le mettre dans des contenants spéciaux que la commune va ramasser pour amener dans des centres de compostage.
On peut aussi faire des gros tas pour que les enfants puissent sauter dedans.
Voilà. Aussi.
On a reçu une question, Fabrice, qui nous dit « J'ai rentré mes géraniums pour l'hiver, mais faut-il enlever les feuilles restantes ? J'ai déjà coupé les fleurs et boutons. » Merci pour vos conseils, c'est une question de Stéphanie.
Alors ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps effectivement c'est nettoyer les plantes, enlever toutes les inflorescences et les feuilles qui sont sèches. Après si on avait encore des choses qui étaient un petit peu vertes, on peut les laisser mais continuer à travers les semaines qui vont défiler d'avoir un œil dessus pour les nettoyer, histoire d'éviter les problèmes de moisissures, pourritures ou choses comme ça. Après les parties abîmées on peut aussi les couper sur les tiges et puis après ce qu'on peut faire aussi c'est peut-être surveiller pour que on ait un substrat qui reste légèrement humide, il ne faudrait pas l'arroser mais mettre un petit coup d'arrosage, laisser essuyer, plutôt tenir un petit peu humide, pas que ça dessèche complètement. Et après, au printemps, ça va se réveiller tout seul, une bonne taille, un petit peu d'engrais, puis ça va repartir.
Merci Fabrice.
Oui, oui, merci Fabrice. J'avais fait une micro-sieste, je crois. Je m'étais plus ou moins endormi, c'est peut-être encore un peu tôt. 0 900 70 20 20. J'espère que vous vous êtes pas endormi derrière votre téléphone. Vous nous appelez pour 36 centimes la minute, c'est proposer vos questions à notre spécialiste du jour. Vous pouvez également faire par SMS, vous tapez jardin espace votre question et vous envoyez ce message au 939 ou remplissant le formulaire disponible sur nos sites web sous l'onglet émission questions aux jardinières.
On se retrouve dans un instant juste après Nazareth Dream On.
7h 8h, les jardinières.
Les jardinières en votre compagnie jusqu'à 8h. On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet. C'est sous émission, sous l'onglet émission, questions aux jardinières. On va enchaîner avec une question arbre, Raphaël.
Exactement. Je vais planter, pas moi personnellement, mais notre auditeur, je vais planter un arbre dans les jours qui arrivent et je me demandais si je devais ajouter une terre plus riche ou de l'engrais dans le trou avant d'y mettre l'arbre.
Alors, d'y rajouter une terre plus riche, ça va dépendre surtout de la qualité du terrain où il habite. Donc, on a des endroits qui sont plus rocailleux, des endroits qui sont argileux, on a des endroits qui sont avec des belles terres. Donc, ce qu'il faudrait déjà faire, si on a un endroit qui est argileux ou rocailleux, il faudra peut-être sortir un petit peu cette caillasse ou cette argile pour arriver avec une bonne terre, effectivement. Après, on peut mettre, pourquoi pas, du terreau pour le mélanger si la terre est de moyenne qualité, pour un petit peu alléger tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est peut-être d'avoir un trou qui soit, grosso modo, une fois et demie plus important que notre motte, histoire que l'enracinement puisse se faire rapidement dans une terre meuble. Et puis après, on va mettre la terre fine de bonne qualité tout autour de la motte, la terre de seconde qualité pour finir de combler le trou, et puis la partie supérieure quand on a creusé, donc ce qui est la partie engazonnement avec les racines tournées en l'air pour faire une couronne en fait de plantation. Après, on peut encore arroser pour remettre toute cette terre correctement en contact avec les racines, histoire qu'il n'y ait plus d'air qui circule à cause des froids qui vont arriver également. Et puis ensuite, pour l'engrais, moi je pense qu'on pourrait mettre plutôt un engrais complet au printemps, une fois que la terre va se réchauffer, que l'air va se réchauffer, pour démarrer correctement.
Et là, on le plante, on l'arrose, hein, vous avez dit, pour éviter le froid. Est-ce qu'il faut après continuer de l'arroser jusqu'au printemps ou on le laisse tranquille ?
Non, c'est juste au moment de la plantation, vraiment pour mettre la terre bien comme il faut en place, pour que toutes ces petites particules de terre se rassemblent et puis ne laissent plus de passage. Et après, les pluies qui vont arriver, la neige qui va fondre aussi, toutes ces choses-là, avec la terre qui va se retasser d'elle-même après le foisonnement, ce sera bon. On peut laisser tranquille. Après, il faudra juste surveiller par l'arrosage, peut-être au printemps ou en été, une fois que la plante va redémarrer.
Merci Fabrice. On va se diriger dans la cuisine avec du gingembre. Une personne a du gingembre qui germe dans sa cuisine. J'imagine qu'il est posé dans le plat de fruits. Est-ce que...
C'est mieux, hein. C'est plus pratique. Parce que si elle arrivait comme ça par hasard...
C'est dommage. Elle se demande si elle peut le planter dans l'espoir d'en faire pousser, d'en avoir du frais par la suite.
Alors, effectivement, maintenant, on pourrait essayer ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai jamais pratiqué ce genre de plantation à cette période en appartement. Donc, on peut toujours essayer, voir ce que ça donne. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est température, c'est bonne lumière. Donc, on peut acheter maintenant dans le commerce aussi des éclairages, justement, pour avoir ce qu'il faut au niveau photosynthèse une fois que ça se développe. Mais je pense quand même que pour réussir ce type de plantation correctement, il faudrait le mettre peut-être soit en pot, soit en bac sur une terrasse, ou alors directement essayer en pleine terre en faisant attention de réunir toutes les conditions optimum pour que ça fonctionne bien. Donc après, ce que je peux faire aussi, c'est peut-être encourager cette personne à aller voir sur un moteur de recherche pour regarder justement qu'est-ce que cette plante demande et exige. Et puis après, elle peut prendre un risque, faire des essais, mais je pense que maintenant, en appartement, on ne va pas aller vers une grande réussite, mais on peut toujours s'amuser.
C'est par les tests qu'on apprend là. On a parlé
exactement
du gingembre qui germe. Est-ce qu'il y a d'autres légumes, quand ils commencent à germer dans notre cuisine, qu'on peut planter ? Je pense par exemple moi à mes patates, qui souvent se mettent à germer alors qu'elles ne devraient pas. Est-ce que je peux les planter ?
Alors, on peut s'amuser aussi, mais plutôt de nouveau dans la belle saison. Hein, quand on va commencer d'attaquer au printemps, on peut faire des mises en place. Là, de nouveau, on a dans les moteurs de recherche, on a de nouveau des choses assez rigolotes où c'est qu'on peut faire des plantations en pot, où c'est qu'on peut avoir une petite production, par exemple, sur un attique ou un balcon, où c'est qu'on peut avoir quelque chose. Il ne faut pas s'attendre à des patates d'un grand format ou des grands rendements, mais on peut obtenir quand même quelque chose d'assez régulier. Après, ce qu'il faut faire attention avec toujours ce type de plantation, c'est qu'il faut suivre au niveau de l'arrosage. Il ne faut pas qu'on ait d'à-coups. Donc après, on peut aussi s'amuser avec plein de choses du style, avec des chicons. On peut mettre une partie aussi en terre pour que ça repousse. Après, on peut prélever les feuilles. On peut faire ça avec persil, ciboulette. On a des plantes aromatiques, donc on peut aussi avoir dans son appartement, dans sa cuisine, pour prélever tout au long de la saison. Mais c'est assez fragile. La moindre petite faute... on recommence à
c'est
zéro.
C'est la fin.
Ouais.
Merci Fabrice.
On rappelle peut-être les numéros avant de partir sur la pause. Météo et info trafic 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour poser vos questions à notre invité Fabrice Rondez ce matin. Ouais, il fait encore nuit, notez que ça marche encore. Ce matin, attendez peut-être 5-6 minutes avant de nous appeler, histoire de ne pas trop patienter au téléphone. Sinon, si vous n'avez pas le temps d'attendre, vous avez l'option SMS à disposition. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939. Et pour terminer, le formulaire à remplir disponible sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Les jardinières.
Les jardinières sont de retour et il vous reste une petite demi-heure pour poser toutes vos questions à notre invité Fabrice Rondez, paysagiste à Porrentruy.
Et pour ce faire, vous connaissez les trois techniques possibles par téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous l'envoyez votre message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Et Mylène, je crois que c'est exactement ce qu'a fait Jackie.
Oui, elle nous a posé une question. Elle nous dit « Bonjour, j'ai planté un cerisier dans mon jardin l'année passée. Quel moment est idéal pour tailler cet arbre ?» Et elle nous remercie pour notre super émission. C'est un peu le matin des compliments.
On va arrêter avec des compliments, après on ne va plus passer les portes.
On se fait du bien là. Donc Fabrice, c'est aussi grâce à vous, hein, tous ces compliments. Donc, quel conseil donner à Jackie pour ce cerisier ?
Bien, pour ce cerisier, maintenant on va laisser passer la fin de cette année et puis on pourrait attaquer ça entre janvier et mars pour la taille des fruitiers. C'est un moment qu'on aime bien parce qu'on arrive bien à différencier tout ce qui est les yeux à bois puis les yeux à fruits. Donc c'est très lisible et puis après, comme ça, ça nous permet aussi de réparer peut-être les dégâts éventuels suite à des neiges lourdes ou du gel justement qu'on prie cette neige puis où c'est qu'on aurait de la casse.
Justement, vous parlez de la neige, Alors moi je suis novice dans les arbres, ça ne serait pas mieux de le tailler maintenant pour éviter cette casse ?
Non, parce qu'après, si par exemple on a des jeunes arbres avec des branches qui sont quand même un petit peu fragiles, si on a une neige lourde qui gèle, donc on imagine ce paquet de neige qui peut faire plier, voire même aller jusqu'à casser certaines branches charpentières, fruitières, sous charpentières. Et puis à ce moment-là, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, aussi on a la facilité de voir la différence entre les yeux à bois et les yeux à fruits. Et puis avec cette lecture, on arrive à vite cibler et puis à orienter pour avoir une taille au départ qui sera de formation et après avec une taille de formation, une fructification pour après ne chercher plus que le fruit une fois que l'arbre est adulte.
Merci beaucoup Fabrice pour cette réponse. J'espère que notre auditeur aura toutes les réponses. On enchaîne avec une question de Alain. Alain est un économe et c'est bien quand on pense aux économies d'électricité et tout ça. Et lui, il a un peu le système D. Il aimerait savoir s'il peut utiliser l'eau de son séchoir à linge pour arroser ses plantes d'intérieur.
Alors là, je suis un petit peu emprunté pour répondre à cette question parce que on peut imaginer que dans les machines, on a de l'entrée de gamme, on a de la haute gamme et puis on a encore toute une série de modèles entre. Et puis après, on a sûrement aussi, j'y connais rien, mais on a sûrement aussi plusieurs façon de travailler peut-être à ce niveau-là, ce qui fait qu'on peut avoir à la sortie des eaux un peu différentes, peut-être déminéralisées ou peut-être chargées avec des fibres ou chargées avec d'autres choses. Moi, je pense qu'il faudrait voir auprès de son revendeur pour savoir quel type de machine on a dans les mains, savoir quelles sont les propriétés de l'eau à la sortie pour après savoir tout ce qu'on peut en faire. Donc moi je pense qu'il faut commencer par se renseigner avec la machine pour après aller jusqu'au bout de ça, mais l'idée est très bonne.
C'est quoi l'eau idéale pour arroser une plante?
L'eau idéale pour arroser une plante, c'est tout simplement l'eau de pluie. Donc, ce serait de récupérer, d'avoir des récupérateurs d'eau sur les genoux ou comme ça. Et puis après, par exemple, on peut récupérer cette eau en hiver, la mettre dans l'appartement pour qu'elle se mette à température ambiante. Et puis l'utiliser de cette façon-là. Après, pour l'extérieur, eh ben, on la prend directement dans le récupérateur pour aller dans les pots ou dans le jardin ou tout ce qu'on voudra.
Écologique et économique. On va enchaîner avec une question litière. C'est une personne qui dit qu'il y a une litière pour son chat qui est à base de matières premières 100% végétales. C'est écrit sur le sac qu'elle est compostable et biodégradable. Et elle se demandait si une fois que son chat a fait ses commissions dedans, est-ce qu'elle peut mettre tout ça au compost et ensuite le compost au jardin ?
Alors effectivement, dans les composts, ces litières, on peut les réutiliser. Après, moi, ce qui me plaît un peu moins, c'est justement les sels, parce qu'on a on a des choses qui sont intéressantes, comme par exemple le fumier de poule, le fumier de bovin, des choses comme ça. Mais après, on a des choses qui le sont moins, comme les chats, les chiens. Donc ça, c'est un petit peu moins bien. Après, pour les urées, ça, c'est différent. Mais après, pour ces sels, c'est pas top. Et après, encore, ce qu'il y a aussi, c'est le côté désagréable de la chose que je voudrais retravailler au jardin. Donc moi je dirais non. Mais ça, c'est personnel. Après, ça peut très bien ne pas déranger aussi. Mais moi, je préférerais travailler avec des fumiers de bovin, de poules, plutôt que de ça. Ouais.
C'est vrai que quand on pense à litière à chat, c'est pas forcément le premier truc qui nous vient pour tout ça.
On a déjà tous fait l'expérience en allant désherber dans son jardin ou potager, de mettre de tomber en contact avec ça, c'est pas terrible.
Juste avant de peut-être faire une pause musicale, on va remercier Damien de La Chaux-de-Fonds qui nous a envoyé un chouette SMS, mais juste en signant Damien de La Chaux-de-Fonds. Donc si vous avez une question, Damien, n'hésitez pas à nous refaire le même système. Vous envoyez votre message, vous tapez jardin un espace votre question et vous l'envoyez au 939, ce sera plus pratique parce que voilà, Damien de La Chaux-de-Fonds, merci pour le message, mais ça va être compliqué pour Fabrice d'y répondre.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières en votre compagnie encore pendant un petit quart d'heure. Et on va parler avec Fabrice d'un pommier, Raphaël.
Exactement, c'est Alexandre des Ponts de Martel qui nous a écrit « J'ai un magnifique pommier, une variété d'anciennes pommes et j'aimerais le bouturer. Pouvez-vous me donner quelques conseils ?» Alors déjà, avant de peut-être répondre à Alexandre, que veut dire bouturer pour le novice que je suis en jardinage ?
Alors, bouturer, c'est simplement le prélèvement d'un bout de branche, d'un bout de tige sur des plantes herbacées ou ligneuses pour après les mettre en condition idéale pour qu'elles développent des racines pour pouvoir se développer. Donc, après, par contre, dans le domaine du fruitier, on pratique plutôt la greffe. Donc, si on veut reprendre toutes ces caractéristiques, si on veut développer une charpentière, une sous-charpentière, il serait peut-être mieux que cette personne s'approche de quelqu'un qui maîtrise cet art du greffage pour faire ça. On aura, je pense, de meilleurs résultats plus rapidement et puis il pourra reconstruire peut-être un arbre. Ou alors le greffer, s'il veut redémarrer une nouvelle plante complète, le redémarrer sur un porte-greffe. Donc ça, ce serait mieux.
C'est quelque chose d'assez incroyable. En fait, on prend cette branche de l'ancien pommier, on met sur un autre arbre.
En même temps, Mylène, on le fait sur les humains, donc pourquoi pas sur les arbres ?
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ça donnera une autre variété de pommes. Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique, en fait. C'est ça, Fabrice, c'est juste.
C'est exactement ça. C'est que, par exemple, si on prend un porte-greffe qui aura des caractéristiques assez spécifiques, par exemple, pour nanifier une plante, pour avoir une condition ou autrement d'une plante moyenne ou à grand développement, ce qu'on appelle des basses tiges ou des nains, des mi-tiges ou des hautes tiges, on va prendre des porte-greffes différents. Puis après, on va sélectionner sur un arbre un greffon pour qu'on puisse mettre sur ce porte-greffe toutes les caractéristiques du fruit désiré en lui insufflant en plus de ça justement la croissance qu'on veut lui donner par rapport à l'emplacement qu'on lui réserve. Oui.
Merci Fabrice, on va enchaîner avec une question de Francine qui a un sapin dans son jardin, mais elle aimerait le déplacer. Il mesure actuellement 1m60. Comment doit-elle s'y prendre pour le déraciner et le replanter sans dégâts ? Elle vit à Malraix.
Donc la grandeur n'est pas si importante, en fait c'est plutôt l'âge de la plantation qui est importante. Parce que une plante qui est au bout de 3-4 ans de plantation, c'est assez facile de prendre une motte avec tout son système racinaire pour le replanter dans un nouveau lieu. Par contre, si cette plante a plusieurs années de plantation. Plus les années vont s'écouler, plus le système racinaire va s'étendre dans le terrain, plus il sera difficile de prendre cette motte avec un maximum de racines pour que la reprise se fasse facilement. Donc, il faudrait plutôt regarder au niveau de l'âge. Et puis, après, ce qu'il faut, c'est de nouveau refaire comme avant. On disait pour la plantation, faire un trou une fois et demie, en tout cas plus grand que la motte qu'elle aura prélevée, avoir un terreau assez léger, où c'est que le racinement puisse se refaire rapidement, soigner après la reprise avec l'arrosage, le tuteurer, parce qu'un sapin, il va avoir une prise au vent aussi bien dans la saison morte que dans la pleine saison. Donc il est important pour le racinement se fasse rapidement, d'assurer son ancrage tout de suite. Et puis comme ça, après, il redémarrera très rapidement.
0-900-70-20-20 pour 36-7, la minute, on a bien entendu vos voix ce matin dans les jardinières. N'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions à Fabrice. Vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin, votre question et vous envoyez ce message au 939 ou sinon via le formulaire disponible sur nos sites web sous l'onglet émission questions aux jardinières, comme l'a fait Grégoire qui pose une question très précise. Mon cher Fabrice, il chauffe au bois et il a lu qu'il pouvait épandre les cendres de son poêle dans son jardin potager mais aussi sur sa pelouse et ses plantes d'intérieur. Il se demande quels sont les bienfaits pour son sol, mais aussi à quelle fréquence le faire et avec quelle quantité. Merci beaucoup.
Alors effectivement, la cendre, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on apporte des matières, comme des sels minéraux, c'est riche en potasse aussi. Mais après, ce qu'il faut faire très attention, c'est le grammage au mètre carré. Donc ça, c'est très important qu'il aille regarder par rapport à l'utilisation, justement, dans un jardin potager. Il ne faudrait pas excéder un certain nombre de grammes par mètre carré, pour la pelouse aussi, et pour les plantations aussi. Parce que ce qui va se passer au bout d'un certain temps, c'est qu'on va bloquer les échanges au niveau des sols et ça va se retourner directement contre nous. Donc à utiliser avec beaucoup d'attention. On a des épandages qui vont se faire aussi une fois par saison. On ne va pas répéter ça trop souvent dans la saison. Donc à utiliser avec parcimonie, mais c'est très intéressant.
Avec modération donc.
Oui, exactement.
Et puis avec le reste de ses cendres, il peut toujours faire de la lessive. Mais ça, c'est une autre histoire. On va parler d'une serre, Fabrice. Une personne qui a une serre de 20 mètres carrés. Je vais reprendre. Voilà. J'ai pour ma serre de 20 mètres carrés un chauffage pour l'hiver. Mieux vaut-il le suspendre ou le laisser au sol? Comme la chaleur monte, je me dis qu'il vaut mieux le garder au sol. C'est une question de Dominique du Locle.
Oui, ben effectivement, il a bien résumé les choses. Donc la chaleur montant, ce qu'il faudrait faire, c'est placer ce souffleur. Je pense que c'est un souffleur avec une hélice qui va propulser cette chaleur en avant, comme on le voit souvent dans ces petites serres. Donc il faudrait le mettre à l'arrière, dans un angle au milieu, pour que après cette chaleur se diffuse gentiment dans toute la serre et après elle va monter pour baigner et puis adoucir. Et puis mettre hors gel toutes les plantes. Après, ce qu'il faut faire peut-être attention, c'est de la mettre aussi avec pas de plantes directement devant, pour que toute la chaleur puisse passer, puis pas que les premières plantes prennent trop de chaleur. Après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que on va avoir des températures qui seront dégressives. Directement à la source, on sera beaucoup plus chaud qu'à 2-3 mètres de là. Donc ce qu'il faut faire attention par conséquent, c'est qu'on aura aussi des pots qui vont s'assécher plus rapidement. Donc selon le type de plante qu'on a, il faudrait être vigilant par rapport à ces à-coups au niveau de l'arrosage. Et puis après, regarder aussi par rapport aux plantes, pour la partie aérienne, comme elles se dessèchent, pour éventuellement vaporiser, pour humidifier un petit peu l'air.
Qu'on chauffe une serre au printemps pour avoir plus rapidement des tomates ou autres légumes, je vois bien. Mais là, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on tient au chaud dans une serre, Fabrice?
C'est typiquement toutes les plantes de type méditerranéenne qu'on va mettre là-bas dedans, parce que maintenant, de plus en plus, on a quand même la possibilité de travailler avec des orangers, des citronniers, des mandariniers, des choses comme ça. Et puis, ces plantes, on peut aisément les rentrer pour après les ressortir au printemps dès qu'on est sorti des gels.
Merci Fabrice, on va enchaîner avec, on a le temps, encore une question.
Oui, elle a encore une question, celle de Morissette qui va emménager dans une nouvelle maison avec un jardin, mais malheureusement il y a un talus, enfin malheureusement c'est moi qui l'ai rajouté, mais il y a un talus pour ne pas le laisser en friche, elle aimerait y mettre des plantes couvre-sol. Quelle plante choisir avec une exposition plein nord et une altitude de 800 mètres?
Alors on a pas mal de plantes qu'on peut utiliser. On pourrait varier éventuellement pour donner un petit peu une dynamique pour que ce soit plus joli. Donc on peut utiliser des conifères nains qui peuvent être tapissants ou en forme de boule pour ne pas avoir tout au même niveau, pour que ce soit plus expressif. Après, on peut rajouter là-bas dedans peut-être des choses comme du lierre, de la vinca, de la pervenche. On a des petites choses comme ça qui sont très sympas. La pervenche est une plante qui est intéressante parce que au-delà de son feuillage persistant toute l'année, on va avoir une très jolie floraison. Donc si on marie le côté justement de ces différentes plantes avec des tonalités différentes, des volumes différents, avec le côté fleuri aussi qui va venir dans des saisons, on peut faire quelque chose de très joli, et puis avec pratiquement zéro entretien si on choisit bien les variétés.
Ça, c'est le bon plan.
Oui.
Merci Fabrice. 7h53, l'heure tourne. Il sera déjà bientôt l'heure de nous séparer. Mais avant de se quitter, on va passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. Fabrice, nous sommes le 23 novembre. Soyez honnêtes, on se l'écaille. Bref, quoi faire dans le jardin en ce moment?
Alors, si on a trop froid, on va attendre l'après-midi pour aller dans le jardin.
Voilà. Je vais dire, boire l'apéro.
Si vous voulez, pourquoi pas. Et puis après, on va mettre l'accent, comme on l'a vu précédemment, on va regarder pour nettoyer tout ce qui est espace vert, donc gazon, et puis partie un petit peu plus haute, si on a des prairies fleuries, pour pas avoir de vermine dedans, histoire que quand on les reprenne au printemps, ce soit propre. On va sortir les feuilles également, on va continuer d'avancer dans les récoltes sur les légumes d'hiver, et puis nettoyer les autres parties, et puis on va faire cette taille, on va faire ces plantations, on va repenser un peu son jardin. On peut imaginer aussi, peut-être en travaillant à l'intérieur, de faire des nouvelles associations de plantes pour étaler peut-être plus de floraison, plus de couleurs l'année suivante, pour éviter d'avoir tout au mois de mai ou tout au mois de juin, mais on peut aller chercher des fleurs dès le mois de janvier, février, mars, pour aller jusqu'à septembre, octobre, donc on peut aller bouquiner un petit peu pour profiter pleinement de ce tour de maison.
Justement Fabrice, il fait froid, plein de gens peuvent avoir l'envie peut-être d'abandonner un peu leur jardin. Est-ce qu'il y a des répercussions après sur le printemps?
Non, parce que maintenant on a quand même une somme de travail qui se trouve nettement réduite par rapport à la pleine saison. Donc on est que novembre, donc ce qu'on ferait pas maintenant, on a quand même jusqu'à mars que ça démarre vraiment pour le faire. Donc on a quand même devant nous 3-4 mois encore où c'est qu'on peut choisir des belles journées plus ensoleillées, sans bise, où c'est que la terre aurait un petit peu ressuyé parce qu'il n'y a pas plu pendant un certain temps, où c'est qu'elle n'est pas trop mouillée. Donc je crois qu'on a le temps quand même.
Quand même du travail, hein, pour dire qu'on est au mois de novembre et qu'il fait froid.
Mais c'est un plaisir aussi, ça fait du bien.
Oui, ça entretient, ça garde jeune, c'est ça.
Voilà.
La météo ne refroidit pas les jardinières, c'est tout, c'est comme
non,
ça.
Non, elle les conserve.
Exactement. En tout cas, merci beaucoup à Fabrice. On rappelle que vous êtes propriétaire et créateur de Fabrice Rondet SARL, paysagiste à Port-en-Truy. Merci d'avoir mis votre réveil aussitôt un samedi matin, d'avoir passé cette heure avec nous. À bientôt.
Merci à vous et un bon week-end à vous aussi.
Merci Fabrice. Et puis la semaine prochaine, nous recevrons Olivier Ribaud, paysagiste à Queuve. Et vous n'attendez pas samedi pour poser vos questions. Vous pouvez le faire à tout moment par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Et bien voilà, je crois que tout est dit.
Tout est dit.
Il est tôt. Bah oui,
c'est ça. À samedi prochain.
Bon week-end, Dana. Et à bon samedi week-end. Prochain. Merci.
7h, 8h, les jardinières.